J'aimerais vous parler ce matin très rapidement d'un homme qui va, à travers lui, le Seigneur va opérer des miracles. Il est question de cet homme Élisée, celui qui a succédé à Élie comme prophète de Dieu, qui a exercé son ministère pendant plus de 50 ans. C'est un homme qui a marché dans l'intégrité et qui, par ses mains, Dieu a accompli des miracles pour aider tous ceux qui étaient dans le besoin. Et cet homme, très rapidement, lorsqu'il était avec Élie, lors du départ d'Élie, alors que Élie s'apprêtait à être enlevé, il va faire une demande. Il va dire à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je m'en aille. Demande-moi. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, demande-moi ce que tu veux, nous pourrons être surpris de toutes les réponses que nous allons entendre. Si ce matin, on se tenait là, on demandait à chacun, demande-moi ce que tu veux, aïe, 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 les réponses seraient différentes, parce que les besoins sont différents. Oui, les besoins sont différents. Et alors que Élisée se tenait devant cet homme Élie, il a vu le Seigneur agir à travers lui. Il a vu la puissance de Dieu par les mains d'Élie. Et donc, lui ayant à cœur de poursuivre ce que Élie avait fait, au lieu de réclamer quelque chose pour lui-même, il aurait pu réclamer quelque chose pour sa propre vie. Mais on voit cet homme qui va demander quelque chose de très important, quelque chose d'essentiel, parce que ce que Élisée voulait, c'était aussi aider ceux qui étaient dans le besoin. Il voulait qu'à travers lui, le Seigneur puisse agir pour bénir ceux qui étaient dans le besoin. Et il va demander une double part de l'esprit d'Élie. Une bénédiction spirituelle. Il demande à Élie de lui donner une bénédiction spirituelle. Évidemment, ce n'était pas Élie lui-même qui allait bénir Élisée. Mais on voit quand même que ce que cet homme va réclamer, au lieu de réclamer quelque chose de matériel, il réclame une bénédiction spirituelle. Parce que ce dont le peuple avait besoin, même s'il y avait des besoins matériels, tout comme aujourd'hui, il y a des besoins matériels, il y a des besoins de diverses sortes. Oui, on est différents, donc nos besoins sont différents. Mais quand on réalise le monde dans lequel nous sommes, au lieu de donner quelque chose de matériel aux hommes, ce dont les hommes ont besoin encore aujourd'hui, et cela n'a pas changé, et cela ne changera pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ce dont les hommes ont besoin, c'est la bénédiction de Dieu, quelque chose de spirituel. Ils ont besoin de goûter à l'amour de Dieu. Ils ont besoin réellement d'avoir Jésus dans leur cœur. Ils réclament Élisée une bénédiction spirituelle. Et à travers lui, le Seigneur va opérer des miracles. Et j'aimerais parler de deux miracles. Et à travers ces deux miracles, j'aimerais parler de la mesure de la foi. La mesure de la foi. Le premier texte se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4. Élisée qui va aider une veuve. Nous lisons ceci. Une veuve, une femme de la communauté des prophètes, cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait lorsque les récipients furent pleins. Lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient » et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Amen. Voilà déjà le premier texte sur lequel nous allons nous entretenir quelques moments. D'abord, nous pouvons voir qu'un jour, Jésus était avec ses disciples et les disciples de Jésus vont en faire aussi une demande à Jésus. Les disciples vont dire à Jésus, « Augmente notre foi. Augmente notre foi. » Vous savez, quand on parle de foi, il y a parfois une mauvaise compréhension de ce que Dieu attend de nous. Parce qu'en parlant de foi, on peut croire que c'est quelque chose que l'on peut quantifier. Mais lorsque Jésus va recevoir cette demande des disciples, au lieu de répondre à leurs besoins, lorsque les disciples vont s'approcher de lui pour dire, augmente notre foi, Jésus, au lieu de parler d'une quantité de foi, il parle là de quelque chose qui devrait également attirer notre attention. Parce que dans notre marche avec le Seigneur, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une quantité de foi, quelque chose que l'on peut quantifier. Jésus dira, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé. Et dans un autre texte, Jésus dira, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde. Nous voyons que ces deux graines sont de très petites graines. Et Jésus compare la foi de ses disciples et nous également, par voie de conséquence, à quelque chose de petit. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là. Et après, il dira, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéira. Au lieu de parler d'une quantité de foi, Jésus parle là de l'importance de la foi, de quelque chose de vital. Montrant par là que dans notre vie chrétienne, vous savez, on aura tous des montagnes. On aura des montagnes. Mais comment faire, quelle attitude avoir lorsque nous sommes en face de ces montagnes-là? Quand nous avons des situations qui échappent à notre entendement. C'est ce que va vivre cette femme. Son mari est décédé. Et le créancier vient pour réclamer son dû. Et parce qu'elle ne peut pas satisfaire, parce qu'elle ne peut pas rembourser la dette. Vous savez, au Moyen-Orient, c'était dans la coutume. Quand quelqu'un ne pouvait pas honorer ses dettes, c'était dans la coutume de prendre les enfants comme esclaves. C'était dans la coutume de prendre les enfants comme esclaves. Et cette veuve, si on prenait ses deux fils, avec quoi allait-elle continuer à vivre? Son mari n'étant plus là, elle dépendait maintenant de ses enfants, de ses deux fils, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et là, devant cette situation qui échappe à son entendement, elle est là désemparée, elle est là réellement sans ressources, sans soutien. Que faire? Je ne vous apprends rien de nouveau. Parfois, nous sommes dans de telles situations où nous n'avons pas de soutien, même de la part de ceux qui nous aiment, de tout leur cœur. Nous voyons dans nos difficultés, ils ne peuvent pas nous aider. Quand bien même ils ont la volonté, il y a des situations où nous sommes là, voilà, sans ressources. Cette femme, elle était sans ressources et elle s'approche du prophète et lui, le prophète lui dit ceci: que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as. Juste un flacon d'huile qu'elle s'en servait pour préparer. Il lui restait simplement quelques gouttes. Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part ce pot d'huile. Élisée va dire à cette femme: va demander des vases. Va demander des vases dans la rue. Demande-en, dira Élisée, un grand nombre. Vous savez, quand on voit la requête d'Élisée à cette femme, devant la gravité de sa situation, on aurait pu dire, et elle aurait pu dire, c'est quelque chose d'insensé. Que vais-je faire avec un grand nombre de vases par rapport à cette petite quantité d'huile que j'ai? Quel est le rapport? Et parfois, voyez-vous, frères et sœurs, devant les montagnes qui se dressent devant nous, nous sommes là en train de en disant parfois: Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec la foi que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma foi devant cette montagne qui se dresse devant moi? Quelle est ma foi? Mais vous savez, il est dit ceci, Élisée va lui dire: une fois rentré, ferme la porte derrière toi. Parce que le miracle qui devait se produire, c'était pour elle déjà d'abord avec ses enfants. Dieu voulait par là montrer à cette femme que voilà, ce qui allait se produire là, à l'instant T, personne ne devait le savoir, même pas les voisins devaient savoir ce que Dieu allait faire. Ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. J'aimerais un instant que nous puissions nous placer un peu dans la situation de cette femme. On nous dit, voilà, prends des vases avec simplement une petite quantité d'huile. La femme va dire à Élisée: voilà tout ce que j'ai. Voilà tout ce que j'ai. Je n'ai pas plus que ça. Élisée lui dit: récupère en grand nombre des vases. Mais Seigneur, cette quantité, en versant déjà dans un vase, c'est comme on dit parfois, quand on va verser de l'eau dans la rivière, qu'est-ce que ça pourrait donner? Or, vous savez, la mesure de la foi de cette femme dépendait du nombre de vases qu'elle allait récupérer. Son obéissance, déjà, elle récupère ses vases. Elle quitta Élie, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient des vases. Ses enfants continuaient parce qu'elle a obéi. Elle récupère les vases, elle ferme la porte derrière elle. Elle commence déjà à verser. Combien sa foi va être mise en application? Elle verse l'huile dans un pot, ça se remplit. Dans le deuxième vase, ça se remplit. Dans le troisième vase, ça se remplit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vases. Elle demande à ses enfants, donnez-moi encore des vases. Et ils vont lui dire, il n'y en a plus. Et c'est à partir de ce moment que l'huile va s'arrêter. À partir de ce moment, s'il y avait encore, ça allait continuer. Si les enfants continuaient à présenter des vases à cette femme, l'huile qui était dans ce petit flacon allait continuer parce que Dieu, il est le Dieu de la multiplication. Dieu, il est le Dieu du miracle. Même dans les situations les plus désespérées, même dans des situations où humainement nous disons, Seigneur, comment faire? Le Seigneur dira simplement, mets ta foi en application et je me glorifierai. Mets ta foi en application. Après avoir rempli tous ses vases, elle alla vers Élisée en disant, voilà tout ce que le Seigneur a fait. Élisée lui dit, va, vends l'huile, paye ta dette et le reste, tu pourras vivre de cela avec tes enfants. Frères et sœurs, ce matin, la situation est telle que cette femme pouvait manquer de foi. Elle pouvait même se moquer d'Élisée. Et vous savez combien de fois devant nos situations, parfois même sans le vouloir, on se moque de Dieu. En se disant, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment la situation peut basculer? Comment la situation peut changer? Elle aurait pu avoir de l'incrédulité en se disant, Seigneur, en se disant, Élisée, ce n'est pas possible. Je n'ai qu'un petit flacon. Vous savez, elle n'a pas regardé sa situation comme insurmontable. Elle a vu simplement ce que Dieu pouvait faire par l'intermédiaire de ce petit flacon. Elle était désespérée dans sa situation. Tu es désespéré dans ta situation. Désespéré. Mais veux-tu entendre ce que le Seigneur te dit ce matin? Voulons-nous entendre ce que Dieu nous dit ce matin? Voulons-nous simplement placer notre confiance, mettre notre foi en application? Jésus dira, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, un petit flacon d'huile. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, un petit flacon d'huile. Vous diriez à cette montagne, déplace-toi, déplace-toi. Si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi. Vous savez, je n'oserais pas aller défier le Seigneur en voyant un arbre en disant, déracine-toi, il va te planter de l'autre côté. L'arbre ne m'écouterait pas. Mais devant nos situations, devant les difficultés, le Seigneur, la foi que nous allons placer, au lieu de regarder à la grandeur de la situation, quand je regarde à la grandeur de Dieu, le Seigneur manifeste sa puissance. Et devant mon incapacité et mon impossibilité de changer quoi que ce soit, lui, il agit parce qu'il est le Dieu du miracle. Cette femme Je n'ose pas imaginer la joie. Et imaginez aussi, après, quand elle va raconter à ses voisins, à ses voisines, imaginez ce qu'ils ils vont dire. Elle qui était là, d'un moment à l'autre, elle allait être privée de ses enfants. D'un moment à l'autre, elle allait se retrouver sans ressources, mais la voilà, à cause de sa foi, dans l'abondance. Dieu est le Dieu de l'abondance. Si nous plaçons notre confiance en lui. Élisée va continuer à faire un autre miracle. Et là, il va y avoir une famine. Une famine. Vous savez, la parole de Dieu nous annonce, nous parle de famine, même dans les temps à venir. Élisée va être confronté, le peuple d'Israël va être confronté à une famine. Et la situation était pire, était difficile, au point que il nous est dit que deux femmes vont discuter. Tellement la gravité de la situation était telle que elles vont se partager les enfants, manger les enfants. L'une va dire à l'autre, donne-moi ton enfant, on va le manger aujourd'hui et demain nous mangerons mon enfant. Quelle situation terrible! Quelle situation terrible! Il nous est dit ceci au chapitre 6, verset 24. Après cela, le roi de Syrie rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon, 5 pièces d'argent. Vous savez, qu'est-ce que des crottes de pigeon si ce n'est du fumier? Qu'est-ce qu'un crâne d'âne? Il n'y a rien à manger dans le crâne d'âne. Je préfère moi encore manger la cuisse que le crâne. Mais regardez, voilà, ce qui était insignifiant avait même de la valeur, tellement la situation était terrible. Terrible la situation. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô mon Seigneur le roi !» Il dit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver ?» Avec les ressources de l'aire de battage ou du pressoir, et le roi ajouta, « Qu'as-tu ?» Voilà encore une autre question. « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Cette femme m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain, c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions. Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit les paroles de la femme, il déchira ses vêtements. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Verset 33. Or, Élisée se trouvait chez lui. Les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage avec, mais avant même l'arrivée du messager, Élisée dit aux anciens, « Le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, n'entendons pas derrière lui le bruit des pas de son seigneur. » Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui. Chapitre 7, verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Faisons un peu le contraste entre l'attitude de cet homme avec cette femme. On ne peut pas comparer les situations. Mais nous pouvons voir que malgré la gravité de la situation, cet homme ne va pas croire en la parole. Il s'est dit, écoutez la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dira. Quand bien même il y a la famine, quand bien même la situation est irréversible à vos yeux, demain, vous savez, combien on aime entendre le Seigneur nous dire, demain ta situation va être résorbée. C'est facile, hein? Demain. Mais oh, combien le Seigneur parfois nous fait attendre. Mais il entend cette parole, Élisée lui dit, demain à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie, là où il y avait le siège, là où voilà, la famine régnait. Élisée va dire, aujourd'hui il y a la famine, demain il va y avoir l'abondance. Et lui, même si le Seigneur ouvrait une fenêtre, une chose pareille ne se produirait jamais. On est dans la famine, on restera dans la famine, on mourra dans la famine. On est dans le siège, on restera dans le siège et d'autres, des personnes mourront. Il ne peut pas y avoir de solution. C'est terrible. Impossible. Impossible. Vous savez, ne jetons pas la pierre à cet homme. Ne nous empressons pas de jeter la pierre à cet homme. Parce que combien de fois, même sans le verbaliser, devant la gravité de notre situation, nous ressentons déjà dans notre cœur que c'est peine perdue. Que le Seigneur ne peut rien faire pour que je m'en sorte. Mais Élisée va dire à cet homme, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est ce qui va se produire. La suite nous dira que des lépreux vont être les premiers à voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et ils vont s'empresser pour aller dire au roi, regardez, nous sommes allés à la ville et on a vu que voilà, la population s'est enfuie. Nous voyons tout ce qu'il y a et il va y avoir tout le monde, tous ceux qui étaient dans la famine, alors que la ville va être libérée. Ils vont accourir et chacun va à partir de ce moment ramasser ce qu'il y a de la famine. Il y avait l'abondance. Mais cet homme ayant vu cela, quelle fin terrible pour lui. Au verset 14, on prit deux chars avec leurs chevaux et le roi envoya des hommes sur les traces de l'armée syrienne en disant, allez voir. Ils suivirent les Syriens jusqu'au Jourdain et virent que toute la route était pleine d'habits et d'objets qu'ils avaient jetés dans leur précipitation. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. On eut 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Même pas à la parole d'Élisée, à la parole de l'Éternel. Dieu parlait par lui, à travers lui. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut conformément à ce que l'homme de Dieu avait dit. L'incrédulité. Jusqu'où ça peut nous mener? Parfois, on croule sous le poids de nos difficultés parce qu'on n'a pas confiance que Dieu peut agir. Parce qu'on ne réalise pas réellement, on n'accepte pas humblement la grâce. Parce qu'un miracle, c'est la grâce de Dieu. C'est simple que ça, c'est la grâce de Dieu. On ne mérite rien. La dame, cette femme, elle ne méritait pas ce qu'elle a reçu, mais elle a accepté humblement la grâce de Dieu. Cet homme ne méritait pas, le peuple ne méritait pas, parce que le peuple était dans la désobéissance. Et c'est suite à sa désobéissance que Dieu a permis qu'il soit envahi par les Syriens. Mais malgré tout, voyant la difficulté, voyant la souffrance du peuple, Dieu tend la main encore pour le faire sortir de sa difficulté. Mais cet homme, malheureusement. Frères et sœurs, faisons attention. Vous savez, il y a un écrivain américain qui va dire ceci. Si vous croyez aux promesses de Dieu, vous devez définitivement renoncer à poser la question, comment est-ce possible? Si vous croyez aux promesses de Dieu, vous devez renoncer définitivement à poser la question, comment est-ce possible? C'est ce que cet homme va se poser comme question, mettant en doute la possibilité de Dieu d'agir même dans l'impossibilité. Vous savez, les disciples de Jésus, un jour, vont poser la même question à Jésus. Il va y avoir cette foule qui est là et Jésus va leur dire, donnez-leur à manger. Et nous pouvons voir un texte dans Marc au chapitre, je termine par ce texte, Marc chapitre 8, verset 4. Ils vont voir au préalable les miracles que Jésus a accomplis. Ils vont voir au préalable la puissance de Dieu. Et là, dans cette situation, alors que Jésus demandait à ses disciples de nourrir la foule, c'est sûr, ce qu'ils avaient face à la foule, c'était rien. Mais ils vont demander, mais comment pourrait-on leur donner à manger? Comment? Pourquoi ont-ils posé cette question? Pourquoi, malgré tout ce qu'ils ont vu, les miracles, ils ne comprennent toujours pas qui était Jésus? Je termine en disant ceci. Parfois, nous voyons la difficulté, l'épreuve, la souffrance plus grande que notre Dieu. C'est ce que cet homme va faire. Il voyait la famine plus grande que la parole que Dieu va donner à son peuple. Mais à l'inverse, la femme, dans sa difficulté, va voir la puissance de Dieu à travers le peu qu'elle avait. De quel côté sommes-nous? De quel côté? Quelle est la mesure de notre foi? Quelle est la mesure de notre foi? Allons-nous réagir comme cet homme? En disant, même si le Seigneur ouvrait une fenêtre, même si le Seigneur lui-même descendait là, pareille chose ne pourrait jamais arriver. Ou allons-nous simplement accepter comme cette femme en disant, je n'ai rien à perdre, je n'ai plus rien à perdre que d'écouter ce qu'on me dit et croire que Dieu, même dans l'impossibilité des hommes, peut agir pour sa gloire. Frères et sœurs, j'aimerais que l'on réalise que la grâce de Dieu suffit pour répondre à nos besoins. La grâce de Dieu, c'est celle-là même qui nous a libérés de notre péché. Comment pouvons-nous croire que Dieu a manifesté sa grâce pour nous libérer du péché? Et ne pas manifester sa grâce pour nous aider dans nos difficultés. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ce Père qui nous laisse dans nos déboires, dans nos difficultés? Ce n'est pas possible. Alors, si vous aviez de la foi, il y a ce texte qui nous parle où Jésus parle à ses disciples. Et il nous parle ce matin. Quelle est la mesure de ta foi? Quelle est la mesure de notre foi? devant notre situation. Vous savez combien parfois ça me brise le cœur. Et je le dis avec peine. Quand j'entends qu'on me dise, autrefois, il se passait ceci, il se passait cela, mais qu'aujourd'hui on ne voit rien. Et on baisse les bras. Je me dis, mais le Dieu d'autrefois n'est-il pas le Dieu d'aujourd'hui? Est-il différent d'autrefois qu'aujourd'hui? Dieu a-t-il changé? Dieu manque-t-il de puissance et d'autorité aujourd'hui? Non, c'est nous. C'est nous, c'est moi, c'est vous qui devons croire que quelles que soient les circonstances, il est capable d'agir. Il est capable de nous venir en aide. Il est capable, dans les pires moments, de faire jaillir du bien. Moi, c'est ce Dieu-là que je connais. Je ne sais pas vous, mais je connais ce Dieu-là. Je ne connais pas un autre Dieu. C'est celui-là que je connais. Et si nous connaissons le même Dieu, croyons. Croyons, frères et sœurs, que tout comme la parole a été dit, Élisée va dire, voilà, demain. Croyons que, voilà, dans notre situation, peut-être que nous n'avons pas la force de nous en sortir nous-mêmes, mais levons nos yeux et croisons les regards de celui qui nous aime, de celui qui a traversé le ciel. Jésus a traversé le ciel. Dieu a ouvert le ciel pour faire venir Jésus. Combien plus forte raison il pourra ouvrir le ciel pour répondre à nos besoins? Le salut n'est-il pas plus grand que nos besoins? Le salut n'est-il pas plus grand que ce que nous voulons aujourd'hui? Alors si Dieu nous donne ce salut éternel, cette puissance, si Dieu nous donne cette grâce merveilleuse, combien nos situations sont bien trop faibles devant lui? Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Comme nous l'avons chanté, prosternés, nous confessons tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Quelqu'un a besoin réellement de confesser cela. En disant, Seigneur, devant ma situation, tu es Dieu. Devant mon incapacité à m'en sortir par moi-même, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Et je veux vraiment, Seigneur, que tu interviennes en ma faveur. Et le Seigneur se glorifiera. Que son nom soit béni. Alléluia. Seigneur, nos yeux sont ce matin fixés sur celui qui a traversé le ciel pour venir jusqu'à nous. Celui qui ne s'est pas contenté de nous voir dans notre souffrance lorsque nous étions loin de Dieu. Mais celui qui a compati et qui est venu jusqu'à nous. Non seulement il a traversé le ciel, mais il s'est offert. Tout comme Paul le dira aux Romains, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Oui, Seigneur, nous croyons que parce que tu as donné ton Fils, ton unique, pour répondre, Seigneur, à notre besoin, encore aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que même devant les pires situations, Seigneur, que même devant la déchéance de notre société, au sein même, Seigneur, mon Dieu, de cette pourriture, Seigneur, tu peux en faire jaillir du bien. Seigneur, nous voulons, tout comme cette femme, croire, marcher dans la confiance, en disant, Seigneur, oui, je marche, non pas par la vue, mais par la foi. Éternel, bénis ton Église ce matin. Quelqu'un rentré dans ce lieu abattu, découragé, attristé, Seigneur, abattu, Seigneur, mais je te prie dans ta grâce, relève. Je te prie dans ta grâce, soigne. Je te prie dans ta grâce, révèle-toi. Manifeste ta puissance et montre à quel point tu es au-dessus, même de nos montagnes. Et tu veux nous donner la force de triompher, parce qu'à la croix, tu nous as dit que tout est accompli. Seigneur, merci pour ce tout accompli de Dieu. Seigneur, mon Dieu, qui est une assurance. Devant l'impossibilité, il y a ce que tu veux faire pour la gloire de ton nom. Amen.